c'est une soirée un peu spéciale. On dépasse les limites un peu du groupe vaudois aussi parce que on a invité une psychologue, sexologue, Denise Medico, qui est spécialiste des questions transgenres notamment. Elle travaille à Profa, elle est chef de service en fait couple et sexualité à Profa, chargée de cours à Genève aussi. Voilà, nous, pourquoi est-ce qu'on a invité Denise? Parce qu'on s'intéressait aussi à la clinique de la sexualité. Hein. Comment est-ce que les personnes qui travaillent avec ça tous les jours, avec les questions de différentes personnes, que peuvent-elles nous apprendre? Donc, on remercie Denise d'avoir accepté de venir et de faire une présentation avec pour titre « Le sexe sans organes ». Et puis voilà, je pense que ça a suscité pas mal de questions. J'espère que vous aurez des réponses sur qu'est-ce que le sexe sans organes ce soir. Et puis après la présentation, vous pourrez poser vos questions et on débattra avant de prendre un verre tous ensemble. Ou ceux qui veulent rester, bien sûr, au bar. Oui. Voilà, alors je vais chercher une bière pour Denise. Hein, ça aide pour la voix. Et puis, juste enclencher l'enregistreur.
Il est là.
Ok, alors je vais donner la bière. Bonne séance.
Ben, merci beaucoup, Romy. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis en même temps très heureuse d'être là. Et quand même, une petite pression, vous êtes nombreux. Et je vous ai envoyé un titre assez énigmatique quand même. D'ailleurs, j'ai eu moi-même des retours entre « Ah, c'est très bien, tu vas parler du sexe sans orgasme » ou « Tu vas parler du sexe sans toucher ». Donc, ce qu'on ne fera pas aujourd'hui, c'est un exercice de mentalisation érotique. Quoi qu'on pourrait, ce serait pas mal. Je suis venue, en fait, j'ai accepté de venir parce que j'avais envie de partager avec vous un petit peu mes réflexions depuis que je suis sexologue sur qu'est-ce que c'est qu'au fond cette sexualité. La sexologie est une drôle de branche qui est écartelée entre plusieurs. Une première, c'est la médecine sexuelle qui pense la sexualité comme une fonction et puis qui voit dans le sexe plus ou moins que la sexologie. Ensuite, il y a les études sur la sexualité, surtout sociologiques, qui étudient surtout l'identité. Au fond, la sexualité revient à dire « qui suis-je dans cette société ?» C'est comme un GPS. Tu vas à droite, à gauche, tu es bi, homo, trans... Ça sert surtout à se positionner, il me semble. Il y a la sexologie clinique. Alors là, on sait vraiment plus ce que c'est. Moi, je viens assez de cette troisième branche-là qui n'a pas beaucoup de racines, si ce n'est une racine dans la psychanalyse, une racine dans les travaux comportementaux, qui est somme toute assez bâtarde et puis qui travaille avec des gens qui sont vous et moi et qui sont aussi les gens bizarres. Les gens bizarres, qu'est-ce que c'est? C'est plus ou moins toutes les personnes que je peux rencontrer. Et mon questionnement, il est né de là. Mon questionnement, il est né de comment penser les personnes qui viennent consulter en sexologie. Moi, je reçois beaucoup de personnes transgenres, BDSM, toutes formes d'addicts, et puis les plus bizarres encore, ceux qui n'ont pas de désir sexuel. Et comment les penser en dehors de la technique de l'enclos, c'est-à-dire cette fameuse technique de la psychiatrie et de la psychologie qui est que tout ce qui ne rentre pas dans une normalité ou dont on ne sait même pas quelle est sa limite est mis dans un enclos, celui du pathologique. Donc à partir de là, comment faire en se disant bah, « tiens, ces gens-là existent et puis qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter à moi dans ma compréhension de qu'est-ce que c'est que d'être humain ?» via la sexualité. Au fond, pour faire ça, mon outil, c'est la clinique. Donc, c'est d'être assis en face du patient, pas à côté pour moi. C'est d'être assis en face du patient, mais de me tenir juste à côté, psychiquement. C'est une espèce de corps à corps, qui est un corps à corps sans organes déjà, parce que ce n'est pas un corps à corps... médié par la peau, c'est un corps à corps interne, je dirais, où il s'agit au fond de se laisser toucher par l'autre, se laisser décomposer pour essayer de comprendre ce qu'il est et ce qu'il vit, pour ensuite pouvoir faire quelque chose avec ça qui est comme quelque chose de l'ordre du pli, qui est recevoir ce pli, le déplier. Évidemment, il faut le rendre avec un pli un petit peu différent, sinon ça sert absolument à rien. Le rendre avec un pli un tout petit peu différent, dans l'espoir que quelque chose change pour cette personne-là. Donc mon travail, c'est principalement celui-là, et donc il y a des personnes et des histoires de vie qui m'ont permis de comprendre un peu mieux, et des travaux qui m'ont permis de trouver une autre conceptualisation, et ces travaux-là, pour l'instant, je ne dis pas que ça sera les derniers travaux et que c'est la théorie finale, mais je n'ai rien trouvé de mieux, moi, pour l'instant, que la théorie du corps sans, que les questions du corps sans organes de Deleuze et Guattari. Ce corps sans organes, au fond, je vais prendre un peu de bière. Ça fait un joli bruit de siphon. Ce corps sans organes, bon, bah, c'est clairement développé dans deux ouvrages qui sont l'Anti-Oedipe et surtout Mille plateaux. Qu'est-ce que c'est que ce corps sans organes? Je vais peut-être vous lire la définition, une des définitions que j'avais choisie. Donc, je vous lis la définition que j'avais choisie, parce que bon, comme le livre est quand même comme ça épais, des moments où ils disent que c'est le corps sans organes, il y en a plusieurs. Moi, je m'en étais arrêtée sur une que j'avais pris comme étant le début et la fin pour moi d'une conception. Qu'est-ce que c'est que ce corps sans organes? Le corps sans organes n'est pas un corps vidé ou dénué d'organes, mais un corps sur lequel ce qui sert d'organe, loup, yeux de loup, mâchoire de loup, je vous expliquerai pourquoi les loups après, se distribue d'après des phénomènes de foule suivant des mouvements brownoïdes sous forme de multiplicité moléculaire. Le corps plein sans organes est un corps peuplé de multiplicité. Et aujourd'hui, en relisant un peu les passages de ce texte-là, j'ai halluciné sur la phrase que j'avais oublié de mettre et qui est juste avant. Parce que quand j'écrivais mon texte pour ici, que j'ai finalement pas pris, j'en arrivais là, et puis là je me suis dit, mince, j'ai été traversée dans l'inconscient qui n'est pas le mien. Et la phrase que j'ai complètement laissée de côté, il y a quelques années, c'est, et qui précède celle que je vous ai lue, c'est « Personne ne fait l'amour avec amour sans constituer à soi tout seul, avec l'autre ou les autres, un corps sans organes. » J'y reviendrai. Donc ce corps sans organes. Ce corps sans organes, il faut le voir comme... Bon, ben, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une espèce de chose qui se constitue par vos affects, par les sensations, qui se constitue donc au fond... Je vais faire un mélange entre des termes psy et des termes philosophiques, je ne suis pas philosophe. Donc j'essaie de le transformer dans mon langage à moi pour me l'approprier. Hein. Donc au fond, ce sont toutes ces sensations corporo-affectives qui viennent structurer. Représentation n'est pas un bon terme non plus, parce que c'est une représentation à la fois consciente et inconsciente d'ailleurs, qui viennent structurer cette forme de corporéité au fond, qui est moi. Cette corporéité qui est moi, et qui est moi parce qu'elle est à l'intersection entre moi avec les autres. Et ça, c'est un point de vue absolument fondamental que développent Guattari et Deleuze. Et je fais exprès de dire Guattari et Deleuze. Cette question de la foule et de la multitude, c'est un peu là où on s'oppose à la théorie psychanalytique de base. Et c'est là où c'est extrêmement riche. Et de là, les loups, je vous reparlerai. Donc ça se constitue là-dedans, ça se constitue dans le corps, ça se constitue dans la matière. Et ça se constitue dans le pouvoir et le politique. Donc cette critique-là, au fond, elle vient pour critiquer une chose très particulière de la psychanalyse, qui est la question de la castration, de l'Oedipe. Et donc, au fond, avec la castration, qui est cette idée, au fond, que pour constituer quelque part un peu la pensée, les garçons et les filles vont renoncer différemment à la différence des sexes. Et cette différence des sexes, elle est quand même toujours à la lumière de ce qui s'appelle le phallus. Le phallus n'est pas le pénis, mais c'est la question du pouvoir en même temps. Mais cette idée-là inscrit forcément la question de la différence des sexes et aussi de la théorie du manque comme étant une prémisse de la pensée. Or, ce que moi j'avais comme problème majeur avec cette théorie était que, travaillant avec les personnes transgenres, c'était inadmissible de penser que les personnes transgenres avaient un problème fondamental qui était de l'ordre de la psychose. Parce que c'était en même temps absolument contraire à toutes les évidences du quotidien que je pouvais rencontrer. Mais qui était fortement défendu par une certaine Colette Chiland. Colette Chiland est une psychanalyste française qui a beaucoup travaillé sur les questions trans et qui est encore la référence des questions trans tant qu'elle sera en vie. Elle est assez âgée. Elle doit faire 1m50, mais elle est tenace. Colette Chiland est très très connue pour ses travaux sur les trans, pour ses prises de position. Et une de ses prises de position étant que les personnes trans sont dans un délire psychotique. Sa conception à Colette Chiland d'ordre psychanalytique, en fait, elle l'ancre dans les travaux de Robert Stoller, qui a écrit, qu'elle a traduit elle-même d'ailleurs, c'est la principale traductrice en français des travaux de Robert Stoller, donc c'est assez intéressant comment elle peut traduire, trahir, hein, c'est très très intéressant sur ce point-là. Elle utilise Robert Stoller qui parle de la symbiose entre la mère et l'enfant chez les personnes trans pendant la toute petite enfance, en disant que cette symbiose est tellement importante qu'en fait elle empêche tout développement de la pensée et qu'on se retrouve dans des états psychotiques. Là où il y a trahison de la pensée de Robert Stoller, c'est que Robert Stoller, quand il parle de symbiose, il parle absolument pas de la même symbiose dont parlent les psychanalystes. Il se situe presque plus dans une théorie de l'apprentissage, où en fait, il parle simplement d'une proximité trop grande entre la mère et l'enfant, avec une absence du père, et il parle, lui, d'identification, en fait, secondaire, il va parler d'identification, en fait, au féminin pour des petits garçons biologiques. Cette identification au féminin du fait qu'il n'y a en fait que du féminin autour d'eux. Donc c'est une toute autre conception qui est là complètement trahie pour être reformulée en des termes de Colette Chiland et qui ont un impact énorme en fait sur la vie des gens. Donc il m'importait un petit peu de comprendre et de trouver une solution pour penser en dehors de cette pathologie ces personnes-là. La deuxième question qui m'intéressait, c'était celle du pouvoir. Celle du pouvoir, parce que c'est celle de l'érotisme. Je me suis beaucoup intéressée aux questions BDSM aussi, c'est-à-dire bondage, domination, soumission. Enfin, on a eu ici une très très intéressante soirée sur la question, où on a parlé d'ailleurs du subspace. Je pense qu'il avait appelé ça autrement. Mais cet état dans lequel on arrive, dans un état de nirvana, ou d'extase, je dirais, ce moment où on lâche prise et où on se retrouve en fait dans un état d'amour absolu. Je dirais que le BDSM est en fait la seule ars erotica que moi je connaisse à l'Occident. C'est une ars erotica dans la mesure où ce qui est recherché, c'est un espèce d'état avec un ensemble de pratiques codifiées et où on va vers quelque chose. Mais pour atteindre cet état de subspace, qui est un état très intéressant, hein, je vais essayer, c'est un jeu avec le corps, c'est un jeu avec la douleur bien sûr, mais c'est un jeu aussi beaucoup avec le pouvoir. Mais pas n'importe quel jeu. C'est un jeu avec le pouvoir où le masochiste ou le soumis donne au maître une position telle qui est celle où le maître va amener le soumis jusqu'à la limite de sa limite, mais toujours en restant presque en deçà quand même. Et ce qui va compter, ça va être la relation de confiance absolue qu'il y a entre les deux. Sans cette relation de confiance absolue, il n'y a pas de subspace possible. Il n'y a que douleur. Un bon maître est un maître qui sait donner confiance. Et une relation BDSM, c'est une relation qui est basée sur, en fait, l'abandon de toute volonté de révolte. Et c'est au moment de l'abandon de toute volonté de révolte, parce que la douleur, ça donne quand même l'envie de se révolter, dans un tel état de confiance, qu'il se produit quelque chose d'absolument particulier, qui est cet état de subspace. Et c'est fort, et c'est très intéressant pour penser le pouvoir. C'est très intéressant pour penser le pouvoir, parce qu'au fond, ce que le BDSM montre, c'est que le pouvoir n'a pas de genre. Le pouvoir n'a que des qualités. Il a la qualité d'être sécurisant, il a la qualité ou d'être angoissant, il a la qualité d'être total, il a la qualité d'être ouvert. Enfin, le pouvoir a des qualités et il peut être incarné de manière très très différente. Et ces qualités-là, c'est au fond, en termes cliniques, extrêmement intéressant pour penser cette question-là. Je vais peut-être vous parler d'un cas qui a été... d'une histoire qui a été assez intéressante pour moi. C'est l'histoire d'un patient, enfin non, d'une rencontre entre lui et moi. Moi, je travaille avec une approche thérapeutique qui travaille beaucoup avec les rêves et avec les fantasmes. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'au fond, l'analyse des rêves, qui au début m'a été enseignée sur un mode très analyse du contenu, quelle est ton histoire. Encore là, Robert Stoller, qui revient un peu toujours, qui je pense est en sexologie toujours un auteur fondamental, en tout cas qui m'intéresse beaucoup. Robert Stoller, qui a été le premier à formaliser un peu qu'est-ce que c'est que l'excitation sexuelle et qu'est-ce que c'est que les fantasmes, parle de renversement de triomphe en triomphe. Il explique un peu comment, en fait, dans un point de vue développemental, vos fantasmes expriment en fait vos blessures, vos histoires de vie. Là où il y a des choses qui sont indépassables, qui sont en fait ensuite remises sous une forme narrative dans un fantasme qui fonctionne comme un scénario, et ce scénario évoque une excitation sexuelle et permet d'arriver à une sensation d'orgasme. Je vais un tout petit peu vite, mais je vais arriver à mon histoire de fantasme des lattes du lit. Donc un jour, je suis avec un patient qui vient parce qu'il a découvert qu'il est masochiste. Il a découvert qu'il est masochiste comme on découvre qu'on est gay ou lesbienne. Il l'a toujours su, parce que moi je pense que le BDSM est une identité. Le BDSM peut être une pratique, mais il y a des degrés. Mais pour certaines personnes, c'est une identité. Peu importe l'orientation, c'est leur orientation. Donc, qui lui se découvre à 28 ans environ, fin vingtaine, début trentaine, masochiste, enfin s'accepte enfin masochiste, donc c'est pas facile dans sa vie parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas vivre en dehors de cela parce que c'est la seule manière d'être au monde qui lui permet d'être apaisé. Il y a quelque chose de l'ordre d'une angoisse énorme. Et quand il a commencé ses pratiques masochistes, il a eu comme une révélation. Une révélation d'une première fois, d'un moment de complet alignement et d'un moment où c'est un peu un corps plein. Voyez, pour lui, le corps sans organes, ça a toujours été un corps morcelé, ça a toujours été une angoisse. Et là, le sexe lui a donné un corps sans organes, mais ok, rhizomatique, mais pas par petits bouts. Et donc, c'est une expérience absolument fondamentale en termes d'expérience de vie. Et il me parle de son fantasme et de ses pratiques. En fait, lui, il a commencé très, très jeune, sa sexualité. Donc, il se rappelle, quand il était tout petit, je pense à 8 ans, environ 7-8 ans, tous les jours, il faisait la même chose. Dès qu'il était seul dans sa chambre, il enfilait sa combinaison de ski, puis à l'époque, vous vous souvenez, on avait des combinaisons de ski toutes collantes, là, dans les années 70, 80, début 80, là, qui serraient comme ça, qui étaient un peu trop petites, donc ça faisait objet contenant pas mal. Il enfilait sa combinaison de ski, il se mettait un sac en plastique sur la tête, et il se mettait sous le lit. Et il se frottait comme ça, et il regardait, en fait, les lattes de son lit, tous les jours. Et quand il faisait ça, il se sentait absolument apaisé. Et il m'a parlé de son enfance. Et c'est là que ça m'a beaucoup interrogé sur la question du pouvoir, et la question de papa et maman, et des qualités du pouvoir. C'est quelqu'un qui a eu une enfance, évidemment, une enfance difficile avec un père pédophile en prison, une mère borderline. Mais le plus difficile, c'est pas ça dans la mémoire de cet enfant. Le plus difficile, c'est quand il se retrouve dans le bus à la fin de la ligne 2. Et puis pour ceux qui sont de Lausanne, la ligne 2, ça va à désert. Dans le bus avec sa maman qui doit le quitter pour la semaine parce qu'il va en famille d'accueil, parce que l'État a décidé qu'ils étaient séparés. Et lui, qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là? Vous voyez, je pense que une maman, un papa à 8-9 ans, c'est bien, c'est des objets contre lesquels on peut se rebeller encore. C'est des objets qu'on peut influencer. C'est un pouvoir qui peut être sécurisant, mais en même temps un pouvoir qui est quelqu'un. Un pouvoir qui est facile, un pouvoir qui est là, un pouvoir qu'on peut imaginer. Mais l'État, c'est un pouvoir qui n'a pas de forme. C'est un immense vide, mais qui a le pouvoir sur tout. Et donc il est là, dans ce bus, avec sa maman, qui est dans le même état que lui. Ils doivent être séparés par une instance incompréhensible et un pouvoir total. Et il se sent seul. Et il se sent immensément seul. Et il a continué à se sentir immensément seul toute sa vie. Et du coup, ça m'a fait penser à l'homme ou loup. Ça m'a fait penser à l'homme ou loup. Et en fait, ça m'a surtout fait penser à la critique de l'homme ou loup faite par Deleuze et Guattari. Et cette critique de l'homme au loup, elle a été extrêmement intéressante pour moi parce que quand je les ai lues, je me suis dit « Ah yes !» C'est exactement ça. L'homme au loup, on va faire très court là-dessus. C'est un cas assez classique, relaté par Freud, analysé par pas mal de ses disciples. Mais ce que disent... c'est l'histoire de quelqu'un qui rêve de loup. Et l'analyse freudienne ramène toujours l'histoire à la question oedipienne, à papa, etc. Et Deleuze et Guattari disent une chose extraordinaire. Ils disent, mais ce que Freud ne voit pas, c'est que les loups viennent par meute, qu'il n'y a pas un loup, mais qu'il y a plusieurs loups. Et que donc les loups, c'est comme une multitude qui passe par là. C'est cette immersion dans la multitude de ces choses qui traversent qui est beaucoup plus intéressante à analyser dans les rêves ou dans les fantasmes que la réduction à une explication toute préconçue, au fond, de ce qu'on appelle un familiarisme papa, maman, famille nucléaire et différenciation et castration. Donc, au fond, ce qu'il y a de très intéressant dans la sexualité, il me semble, c'est l'analyse de ça. C'est l'analyse de ces zones d'intensité, de ces zones de pouvoir, de ces moments où, en fait, la sexualité, la fantasmatique permet de mettre en forme ces angoisses qui sont plus des angoisses de masse et qui sont des angoisses beaucoup plus multiformes et qui ont beaucoup plus à voir avec quelque chose de phénoménologique qu'avec leur propre contenu. Ce que la sexologie m'a appris, la sexoanalyse, c'est que le contenu, ce n'est vraiment qu'une apparence et que derrière un premier contenu, on parle en fait de beaucoup d'intensité. Et au fond, ça fait aussi poindre le psychologue en moi qui se dit, peut-être que finalement les théories de l'attachement, c'est très important. Et peut-être que le pouvoir, ça a à voir avec la sécurité et qu'une des choses les plus importantes finalement, c'est ce sentiment ou pas de sécurité qui viendra définir un peu qui nous sommes. Combien de temps il me reste?
20.
La troisième chose. Pourquoi le corps sans organes? Dans la sexualité en Occident, je dis en Occident, en fait parce qu'ailleurs j'en sais rien. Peut-être qu'ailleurs c'est pareil, mais moi je ne sais pas. Dans la sexualité en Occident, il semble qu'on a quand même une obsession avec la mort. C'est toujours, on la pense toujours à l'envers. On la pense toujours en référence, et pas n'importe quelle mort. Hein. Je pense Saint-Augustin, Bataille, Freud. Il y a toujours quelque chose avec ça. Hein. Mais cette mort-là, c'est pas n'importe quoi comme mort. C'est pas juste le fait de passer, c'est pas la fin de quelque chose. C'est la putréfaction. C'est les choses corruptibles de la chair qui sont potentiellement de l'ordre du dégoût. De l'ordre de l'informe. Pas comme si l'informe devait être dégoûtant, d'abord. Et dans la sexualité, il y a toujours cette idée, dans nos représentations de la sexualité, qui me semble assez pas datée d'ailleurs, il y a toujours cette idée dans la psychanalyse aussi, qu'au fond, on ne peut pas vraiment jouir. On peut jouer parce qu'on on va mourir de jouir, être puni d'avoir joui, ou jouir parce qu'on meurt. Et la grande question, c'est est-ce qu'on peut jouir de jouir ? Peut-être. Est-ce qu'on ne pourrait pas construire une vision de du plaisir et du désir qui serait en dehors de ce rapport toujours de tension entre cette chose négative qu'est la mort, mais négative qu'est la mort parce qu'on la voit comme négative, parce qu'on voit la mort comme destruction. L'intérêt des travaux de Deleuze et Guattari là-dessus sont assez fondamentaux parce que ils nous permettent de penser en dehors du manque. Et eux-mêmes ont fait une analyse, je vais revenir au masochiste, parce qu'au fond, le masochiste et le trans, c'est un petit peu mon exemple transversal. Il y a une très très belle analyse de la situation masochiste chez Deleuze, où il explique en fait que ce n'est pas la douleur qui est évitée, c'est la continuation d'une zone de plaisir qui est recherchée. Et l'autre expérience fondamentale, pour moi, ça a été de comprendre comment les personnes trans vivent le rapport à leur corps, mais surtout comment elles le vivent dans le devenir, et dans le devenir sexué. Et ce qui était très intéressant de penser, c'est que ce corps sans organes est un corps qui se constitue, en fait, sous un genre. Sous un genre féminin ou sous un genre masculin, qui est un ensemble de référents culturellement partagés qui vont définir ce qu'il est bon de ressentir quand il est bon de le ressentir. Donc le corps du trans est vécu au départ dans une rupture absolue entre ce que je ressens de moi-même, ce qu'il me semble être juste de ressentir de moi-même, et ce qu'on me dit que je dois ressentir de moi-même. Et cet état-là d'absolue séparation entre ces deux corps, un qui est intuitivement perçu et un autre qui est reçu comme une obligation, fait effectivement qu'à un moment donné, il est difficile de se penser. Mais est-ce qu'il est difficile de se penser parce que la différence des sexes fonde la pensée, ou est-ce qu'il est difficile de se penser parce que l'incarnation est vraiment compliquée? Et le postulat, c'est que peut-être il est difficile de se penser quand l'incarnation pose problème. Ce n'est pas qu'on ne sait pas qu'on a un corps, ce n'est pas qu'on ne sait pas ce qu'est le masculin et ce qu'est le féminin, ce n'est pas qu'on ne sait pas qu'on n'est pas femme ou qu'on n'est pas homme. Moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de trans qui avaient des doutes là-dessus. Bien sûr, il y a des personnes trans psychotiques. Mais il n'y a pas que des trans qui sont psychotiques. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'incarnation qui donne un retour d'un sentiment d'une certaine vérité de soi et qui permet d'être assuré de ce que l'on ressent. Une chose qui me surprend quand même toujours en sexo, c'est de voir à quel point les gens estiment que ce qu'ils ressentent de leur corps, donc de leurs émotions, sont une réalité. Je ne sais pas si c'est un construit culturel ou pas, mais ça semble assez partagé. Donc quand ce que vous ressentez de votre corps ne correspond absolument pas à ce que vous êtes censé ressentir, mais que vous comprenez très bien ce que vous êtes censé ressentir, ça devient très très compliqué. Et c'est là que peut idéalement commencer un moment de crise, ce qu'on va appeler le devenir trans. C'est-à-dire la première phase, c'est d'accepter qu'il y a quelque chose là et de prendre un chemin de devenir. Et un des chemins, il y a beaucoup de chemins de devenir chez la personne trans, hein. Il y a le chemin transsexuel, il y a le chemin transgenre, il y a le chemin travesti. Mais quels que soient les chemins, il y a toujours une forme de devenir qui apparaît. Une des formes, le travestissement, c'est un devenir en accéléré et qu'on peut rewinder. Qui a son processus de transformation, qui est un processus de transformation spatio-temporelle. En sens qu'il y a un moment, effectivement, où ce qui compte, en fait, pour les personnes travesties, c'est souvent beaucoup plus le moment du changement que quand on est arrivé au changement. En général, quand le changement est opéré, c'est déjà la fin. C'est le processus de devenir qui est vraiment le plus important. C'est le processus de devenir. Et qu'est-ce qu'elles vivent ? Elles vivent que petit à petit, minute en minute, à mesure qu'elles se transforment, elles se ressentent différemment. Leur corps réagit différemment. Elles ont l'impression d'être différentes. Elles se ressemblent, si on veut parler des hommes à femmes, donc quelqu'un qui est né homme et qui se transforme en femme, souvent, c'est un peu toujours les mêmes histoires qui sont racontées, parce qu'on partage le même socle culturel de ce que c'est le masculin et le féminin, donc c'est un peu toujours les mêmes histoires. Ce qui est raconté, c'est « mon corps devient plus souple ». Je deviens plus tactile, je ressens, le temps est perçu différemment, le temps est plus plein, mais le temps est plus plein à mon avis parce qu'on est plus en phase. Je commence à avoir une émotivité différente, je me sens une personne différente, j'ai des idées différentes et souvent j'ai une fantasmatique qui peut être différente aussi. Ça c'est dans les processus courts et dans les processus longs, c'est-à-dire qui vont prendre plusieurs années, qui vont vers une transformation plus définitive. Il y a comme ce que les personnes m'ont raconté, c'est comme si elles déterritorialisent leur corps. Donc là, les concepts de Deleuze et Guattari sont très intéressants. Le corps est comme un territoire. Vous habitez un territoire, et donc il faut voir la question trans comme une guerre de territoire. Donc il y a la visualisation qu'on peut avoir, c'est ben, il y a un homme, une femme, deux ethnies différentes qui habitent ce même territoire et qui se battent. Ils se battent à mort. Mais le problème, c'est que personne ne peut mourir longtemps. Quand il y en a un qui meurt, il ressuscite toujours avec plus de force. Donc la guerre de territoire, en termes cliniques, c'est un peu ce qu'il faut éviter. On essaie de changer la métaphore de la guerre de territoire à celle du théâtre, par exemple, ou de la cohabitation pacifique, ou des métissages, ou des mariages mixtes, peu importe, quelque chose qui marche mieux que la guerre, parce que la guerre, c'est terrible. Donc, dans cette guerre, y en a qui perdent du territoire. Et cette perte de territoire, c'est une perte de type de sensation. C'est un changement dans le rapport au corps, c'est un changement dans le mode de jouir, c'est un changement dans les zones corporelles qui sont présentes à l'esprit. Et cette déterritorialisation, elle se fait en parallèle à une reterritorialisation, comme s'il y avait quelqu'un qui prenait corps en nous. Donc c'est une expérience très intéressante en même temps, et qui pose beaucoup de questions sur l'unité du moi. Qu'est-ce que c'est que ce moi unitaire sur lequel on s'obstine beaucoup en psychologie quand même, et pas qu'en psychologie, je crois que vous en philo aussi. Et qui sont cette exigence d'être un. Combien de psychothérapies pour essayer de se sentir un ? Combien de psychothérapies qui ne fonctionneront pas forcément parce qu'on ne se sent jamais un, vu qu'on est toujours tellement dépendant de tout ce qui se passe à l'extérieur ? Et pour les trans, c'est une expérience très intéressante, justement, de penser qu'on peut être plusieurs dans un même corps. Ce qui va m'amener au quatrième point, mais je reviendrai dans le troisième, qui est justement cette histoire de faire l'amour. Parce qu'au fond, la question de votre série, c'est faire l'amour, une expérience limite. Est-ce que le subspace, c'est faire l'amour ? Le subspace du masochiste, peut-être un peu, mais pas tout à fait, parce que c'est un faire l'amour qui n'a qu'un sens, quelque part. Est-ce que la masturbation, c'est faire l'amour ? Peut-être un peu, mais pas vraiment. Peut-être un peu parce qu'en fait, qu'est-ce qui meut la main du masturbateur ? C'est l'idée de l'autre, c'est l'idée de la relation. Hein. Qu'est-ce qui fait l'excitation ? C'est l'idée de l'autre, c'est l'idée de la relation. Les fantasmes sont quasiment toujours des histoires relationnelles. Ce sont des histoires relationnelles, ce qui habite et ce qui vous excite. C'est des histoires de vos relations avec les autres et avec le monde. C'est vos histoires de pouvoir, c'est vos histoires d'abandon, de sécurité, de petit enfant perdu. C'est vos histoires que tout le monde vous regarde et personne n'est là. C'est les histoires que vous êtes tout seul à regarder. Les histoires que vous êtes soumis ou que vous êtes dominant. Ou qu'on vous aime parce que vous êtes dominant, ou que vous êtes soumis parce que vous êtes aimé, ou que votre dominant vous aime justement parce qu'il vous soumet. Ça, c'est l'histoire la plus classique que je peux rencontrer dans mon quotidien. Je veux être soumis parce que je veux être aimé. Ça, c'est le grand classique, à mon sens, de l'humanité vaudoise, en tout cas. Le problème, c'est qu'il y en a deux qui veulent être dans la même position, c'est difficile. Il faut faire un compromis, c'est une guerre de territoire. Hein. On ne veut pas tous être dominants et tous être dominés en même temps. C'est un jeu de positionnement, l'idée, c'est que ça soit mouvant, peut-être. Donc, faire l'amour, c'est, au fond, probablement l'expérience la plus alternative qui puisse être. Pas tellement, parce que faire l'amour, c'est dépasser l'idée du manque, c'est dépasser l'idée de la mort, c'est dépasser l'idée du corps et des interdits. Parce que dépasser les interdits, je pense qu'en 2015, c'est pas très compliqué. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est de dépasser l'angoisse de la proximité avec l'autre. Ça, c'est toute une autre histoire. Et l'angoisse de cette proximité-là, pour pouvoir la dépasser, il faut être quand même assez sécure sur son propre pouvoir. Il ne faut pas être trop angoissé. Si l'angoisse permet l'excitation, trop d'angoisse la bloque. Et les gens qui viennent nous voir en sexologie, en général, c'est parce qu'ils sont bloqués. Hein. Les masos ne viennent pas nous voir parce qu'ils sont masos. Ils viennent nous voir parce qu'ils en ont marre de faire toujours exactement la même chose. Parce que ça devient une prison. Ceux qui n'ont pas de désir viennent nous voir parce qu'ils sont emprisonnés dans leur coupure avec les gens. Donc faire l'amour, c'est un peu ça, c'est expérimenter cet état d'intersubjectivité érotique où vous n'avez plus un seul corps ni deux corps. Vous êtes dans quelque chose d'autre qui n'est pas votre corps ni celui de l'autre, mais qui est le plaisir de l'autre qui devient votre plaisir dans un corps commun sans organes. Ça semble très très simple à dire, mais je pense que c'est un devenir assez compliqué. Et du coup, peut-être que la sexologie pourrait essayer de penser un peu plus comme ça, pour pouvoir penser autrement qu'avec la courbe de Master and Johnson. La courbe de Master and Johnson, c'est le référent classique en sexologie. C'est montée de l'excitation, un plateau, orgasme, résolution. Vous voyez où je veux en venir. On peut faire beaucoup plus de plateaux, je pense. Merci beaucoup.
Questions, enfin, quelles sont vos réactions, questions ?
Moi, j'ai peut-être juste pour lancer un peu la chose. Finalement, dans l'expérience des identités, est-ce qu'en fait les trans ne seraient pas plus évolués que quelqu'un qui serait dans l'unité du moi, puis qui aurait déjà accepté sa corporalité d'homme et du vécu homme, et qui aurait en fait les trans auraient une connaissance de la multiplicité des identités qui serait en fait plus riche et plus évoluée que des personnes qui n'auraient pas eu cette expérience-là?
Oh, je ne mettrai pas en termes d'évolution, parce que... Comment très bien. Ben, c'est sûr que ça s'impose à eux. Ça devient impossible, tellement la différence entre ce corps ressenti et le corps imposé est grande, ça devient impossible de faire comme si ça n'existait pas. Tandis que pour la plupart des gens, c'est quand même là, ça existe toujours. C'est pas spécifiquement trans. Je pense que ce qui est spécifiquement trans, c'est l'amplitude de ce mouvement, qui oblige du coup à se repositionner des questions que beaucoup de gens ne se sont pas posées. Mais moi, je dirais que la sexologie, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les gens dans leurs fantasmes, dans la manière dont ils pensent ça, et donc on est amené à parler de ces questions-là tout le temps. Mais cette question-là, elle se pose pour tous les hommes et toutes les femmes, même de manière plus aiguë pour les hommes, il me semble, pour qui l'exigence de ce qu'il faut est souvent plus importante, parce que l'exigence sociale, l'existence est là.
Donc en fait, la sexualité, en tout cas les fantasmes, seraient une porte pour découvrir les exigences sociales aussi,
clairement, c'est circulaire. C'est circulaire. De toute façon, ce qui nos fantasmes à nous, occidentaux, sont pas du tout les mêmes. Il y a pas, même les zones investies, les types de relations sont très différents. C'est très historique et c'est très géographique en même temps. Mais peut-être pour revenir sur ta question, sur le point d'avant, c'est que les multiples possibilités de ressentir du corps, si les trans peuvent se déterritorialiser et se reterritorialiser, je pense que tout le monde peut se... Et que c'est un truc très intéressant pour les trans, pour beaucoup de gens. Le corps peut se ressentir dans des multiples possibles qu'on ne pense pas forcément, on ne s'en rend pas compte, on n'est pas conscient de ça, forcément, parce qu'on se vit toujours dans chaque moment, mais on peut être très différent dans nos corps.
Donc il y aurait une nécessité de la connaissance du trans pour pouvoir l'avoir, cette...
C'est une mise en abîme. Ou alors une mise en lumière, peu importe, c'est un éclairage sur certains points qui permettent de voir plus de l'humanité. En tout cas, moi, j'ai décidé de penser comme ça, puis d'utiliser les trans pour penser le sexe, et pas d'utiliser le sexe pour penser les trans. Voilà, en gros. Mais c'est un point de vue, on peut faire l'inverse, hein. Bon, ça a valeur de jeu intellectuel, hein, ça n'a pas valeur de vérité.
Mais est-ce que j'entends bien que vous dites que vous voulez aborder la sexologie en désexualisant l'objet de la sexualité, en fait?
C'est quoi sexualiser?
C'est de mettre des dogmes ou des référents qui soient physiologiques, psychologiques, archétypaux sur une identité. En fait, en vous affranchissant de votre identité, quelle qu'elle soit, telle qu'elle a été définie par quelque nature que ce soit, alors vous rentrez dans une autre dimension. Et là, personnellement, je peux me vivre une multitude de personnalités. Je peux être tout et n'importe quoi, comme un acteur de théâtre, auprès dans un rôle ou dans un autre rôle. Il y a des gens qui préfèrent un certain type de rôle et qui vont dire « Ah, moi, je ne suis pas un acteur, je joue ma vie. » Et puis, ça sera un Jean Gabin qui va venir avec son personnage. Alors que vous avez d'autres, de Caprio, qui, lui, va se fondre dans une infinité de rôles. Et moi, dans la sexualité, une fois qu'on enlève la définition de la sexualité, qu'elle soit dans les différentes dimensions que j'ai mentionnées, alors tous les rôles sont possibles. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, et ce que je trouve aussi limitatif, c'est que vous parlez de la mort, vous parlez de la peur, vous parlez de toutes sortes de choses, que la seule finalité de notre humanité, c'est de s'en affranchir, d'une certaine manière. Et pour moi, faire l'amour au sens sub-level que vous mentionnez, c'est de s'être affranchi de tout ça, rencontrer l'autre. C'est dans un affranchissement de ça, en connaissant l'effort qu'il a fallu pour s'en affranchir et la conscience qu'il en faut pour s'en affranchir, commencer à pouvoir partager et rencontrer l'autre qui a fait un chemin peut-être similaire.
Alors, il y a beaucoup de points dans vos questions. Hein. Je réponds auxquelles ?
Que vous voulez.
Alors, première chose, je vais répondre au théâtre. Ouais, c'est vrai, il y a quelque chose de l'ordre du théâtre. Puis en même temps, évidemment, dans ce discours absolu, on ne peut pas jouer toutes les vues. Toutes les pièces de théâtre ne sont pas nos pièces favorites. Ça. On peut jouer beaucoup de choses, mais on a des registres, je dirais.
Répertoire.
Ouais, répertoire. On a ces répertoires-là qui nous excitent plus. Parce qu'on peut faire des trucs, puis ça ne nous excitera pas, hein, puis c'est tout, ça ne sert à rien de chercher plus loin. Donc c'est un théâtre, ouais, mais pour le voir comme un théâtre, il faut déjà s'être affranchi pas mal. C'est évident que moi, mon expérience, au fond, de la sexualité des gens, c'est l'expérience de la sexualité des gens qui ont beaucoup de mal avec leur sexualité. Et qu'est-ce que j'observe ? C'est des gens qui... ont des répertoires extrêmement étroits ou qui sont vraiment pas affranchis ou qui osent pas jouer tout simplement, ils osent même pas monter sur scène, ils sont coincés derrière le rideau et puis donc l'autre il est très 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 loin, donc l'étape ça va être un chemin de sortir pour aller d'abord sur scène et puis sur scène pour ressentir qu'il est sur scène puis ensuite pour être capable de jouer avec un autre une danse. C'est un chemin de vie, effectivement. C'est un chemin de vie. Mais je ne suis pas sûre que ce qu'on dit soit vraiment différent, hein, en fait.
Ah
non, sympa.
Par rapport à la question du genre, du différent genre, si j'ai bien compris, vous restez quand même dans cette perspective de binarité. Je disais par rapport à la question des genres. La question de la binarité, vous restez dans la perspective de la binarité, c'est-à-dire que moi, ça m'arrive d'avoir des discussions où on parle de différents genres. Finalement, chaque personne, c'est un genre sexuel, une sexualité différente. Et à partir de là, moi, je peux comprendre le discours sur lequel, en chacun de nous, on a un homme et une femme. Ça, c'est quelque chose dans laquelle je peux me retrouver. Mais quand on dit chaque personne a une sexualité différente ou chaque personne est un genre différent, à ce moment-là, tout de suite, la question que je me pose, c'est le désir, c'est la rencontre. Alors comment la rencontre peut être possible avec des personnes qui sont chacun des espèces d'atomes complètement spécifiques finalement, par définition, implicitement incompatibles entre eux, ou bien par défaut, à ce moment-là. Donc, c'est... Mais là, je pense qu'effectivement,
vous êtes plutôt
dans la question... Un individu est à la fois homme et femme.
Ouais, vous avez. Non, mais je vous remercie vraiment de soulever ce point. C'est très important. Sur la question de la binarité, c'est fondamental. Hein, c'est absolument fondamental. Et c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur. Enfin, j'ai beaucoup parlé sur ce mode binaire-là. D'abord parce que je parlais de sexualité. Et que autant. Je trouve que dans la subjectivité trans, moi je travaille beaucoup à se penser transgenre, hein, c'est-à-dire à se penser métisse et à se penser en dehors de la binarité. Autant au niveau de la subjectivité, c'est quelque chose qui se met en place ou qui existe déjà assez facilement chez les gens que je peux rencontrer, autant étonnamment, la sexualité... en termes de fantasmatique, reste attaché à un positionnement binaire. Et ça c'est quand même le truc qui m'agace. C'est quand même le truc qui m'agace et que je dois avouer, là, il se passe quelque chose où nos érotismes sont structurés autour de ça. C'est très difficile de se penser trans dans le sexe. Moi, je n'ai pas encore rencontré beaucoup de trans qui se pensaient parfois par moments comme ça, mais ça reste des expériences limites qui se pensent, ça reste très très fortement binaire. Mais en même temps, c'est parce qu'on ne peut pas se penser en dehors de la société. Et c'est un immense chemin, déjà pour penser qu'on peut se penser comme trans, parce qu'on est constitué depuis toujours dans cette écriture-là. On écrit tout, toutes nos narrations sont structurées homme-femme. Je pense que c'est une écriture, c'est un truc secondaire, mais en même temps, c'est très profond. Donc c'est un grand chemin pour se sortir de ça. C'est pas évident.
Oui, juste madame avant.
Ah. Moi j'avais juste une question de définition. Vous avez parlé de transsexuel, de transgenre et de travesti.
Oui.
Et je voulais savoir qu'est-ce que ça définit exactement, où c'est les limites, et qu'est-ce que vous entendez par trans tout court.
Par trans tout court, j'entends tout ça.
D'accord.
Transsexuel, c'est une personne qui suit un parcours de changement de sexe. Donc c'est un homme biologique qui devient une femme trans, ou une femme biologique qui devient un homme trans. Le parcours, il est marqué par certaines étapes. Au moins, il est social, c'est-à-dire au moins, il sort au moins en apparence, puis ça peut être hormonal aussi, ou ça peut être même chirurgical. Ça, c'est pour les transsexuels. Le transsexuel, en fait, constitue une identité unique, c'est-à-dire qu'en termes d'hommes et femmes, il reste un homme, il est homme, il devient femme, mais il reste toujours dans une identité unique en termes de genre. Le travesti, c'est presque toujours des hommes biologiques, mais qui se sentent des femmes en dedans aussi. Il n'y a pas de différence de vécu subjectif de leur genre. Ils vivent tout, le genre, c'est ce vécu de se sentir pas à sa place. Exactement, c'est les mêmes mots qui sont utilisés par toutes les catégories. D'où une grande critique que je peux faire à la catégorisation psychiatrique qui les définit, parce que oui, c'est une différence qu'on peut observer en termes de comportement social, mais en termes de vécu subjectif, c'est le même. Le travesti, en fait, il devient femme par moment, puis après il reprend son rôle d'homme. Donc il se vit en général, je joue mon rôle d'homme dans la société et je suis quelqu'un, mais mon autre personne apparaît par moment. Puis je peux vivre comme ça, voilà, ça me va. C'est faisable, ou bien ce que j'ai à perdre est plus important que ce que j'ai à gagner. C'est quand même une réflexion pratique. Et le transgenre, c'est quelqu'un qui, justement, rompt la binarité et ne se définit plus ni dans le féminin ni dans le masculin, mais dans quelque chose d'autre. C'est pas forcément au milieu, c'est en dehors. Mais c'est aussi un chemin, parce qu'il faut, s'affranchir des normes, c'est toute une histoire. Puis apprendre à ressentir un corps trans, c'est pas si simple, parce que, comme je disais, même dans l'imaginaire érotique, c'est quand même, je suis forcée de constater que ça marche pas si bien.
Dans cette approche, on est dans une approche pré-sexo, et de l'autre côté, on est dans une société où on vit dans la science. Et en tant que trans, on ne nous donne pas forcément le choix du voyage. Je trouve, effectivement, vous avez raison, que c'est très agaçant de rester dans la binarité, mais quand on commence un parcours trans, la première chose qu'on nous parle, c'est le castrateur. Donc, je crois qu'avec ça, ça n'aide pas à regarder loin devant, mais ça nous aide à regarder nos pieds. Voilà. Et je crois que si on l'envisageait autrement, peut-être cette parole-là, je dirais, si elle pouvait voyager de l'autre côté, ça serait peut-être intéressant. Et c'est là où je crois que les limites du dialogue social et du dialogue des experts, ils trouvent vraiment ça, aujourd'hui, en tous les cas, tel qu'on peut le percevoir. Et je comprends très bien cet agacement, mais au final, on n'arrive pas à en sortir, parce que quand vous êtes sous castrateur, très clairement, vous avez les yeux.
Donc vous parlez des
anti-hormones. C'est mieux que la drogue, sauf que l'extase, on ne le voit pas souvent. Voilà. C'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait être quelque chose de la chose. Les gens, ils nous écoutent, donc il y a les médecins et la science qui nous écoutent.
Mais vous remettez en question des choses qui sont perçues comme des socles de pensée. c'est quand même là-dessus, je veux dire, en France, avec la force de la psychanalyse sur les questions trans, vous remettez en question l'idée que c'est possible de penser la différence entre névrose et psychose, c'est violent. Ça devient difficile de penser différemment quand on risque de perdre la possibilité. Quand on risque de se perdre dans le néant. C'est comme ça l'angoisse. Se perdre dans le néant. C'est une angoisse irrationnelle, mais c'est l'angoisse quand même. Et donc les forces mobilisées sont assez violentes. C'est l'inconscient agit complètement dans les colloques. Il faut voir ça. Ben, c'est ça, il n'y a pas de néant. C'est comme le sexe. On ne lutte pas contre le néant. En fait. Mais bon, on a quand même peur.
Oui.
Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'il a eu une enfance comme ça qu'il devient BDSM. Mais c'est faut le voir à l'envers. Dans la pratique BDSM, il revit des choses de l'ordre du pouvoir, et de la relation à l'autre et de la sécurité. Parce que c'est très, très structurant, les pratiques BDSM. C'est comme la combinaison de ski. Ça fait sentir le corps. Et en plus, voilà, le but, c'est l'état devient un maître. Et donc, c'est quelque chose qui lui fait du bien. Mais moi, je ne le verrais pas dans une histoire qui va dans ce sens, mais une histoire qui va dans l'autre sens. Ça permet de rejouer des choses. Mais on a tous des choses à rejouer. Mais la forme qui va devenir, elle varie d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de causalité linéaire avec ça.
L'image que Freud donne justement de la névrose et de sa guérison, c'est l'image d'un fleuve qui serait enfin devenu navigable. Et ce qu'il dit, une analyse réussie permet de naviguer dans toute sa vie de l'origine au présent et en partie aussi au futur, mais il n'y a pas beaucoup de futur chez Freud. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on se réfère à l'enfance, dans la genèse des fantasmes divers, alors on est exactement au contraire de ce que voulait Deleuze et Guattari, c'est-à-dire on est dans la névrose. Tout ce qui se réfère d'une manière ou d'une autre à l'enfance et à l'origine est névrotique. Au mieux, on en vient et on en repart, mais ça reste névrotique parce que c'est surdéterminé par des expériences originelles, soit qu'au fond elles nous surdéterminent, soit qu'on les redécouvre à travers les pratiques sexuelles, mais c'est un vécu infantile. Or, dans votre conférence, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est qu'on allait de l'avant et qu'il y avait vraiment un sentiment deleuzien pour sortir de la névrose et essayer d'inventer en fait ce corps sexuel que chacun doit plus ou moins bien trouver en lui. Et c'est une expérience qui va de la puberté à la mort, donc c'est une expérience qui va vers l'avant. Tout ce qui est sexuel, tout ce qui est de l'ordre du désir, hyméros, hein, c'est quelque chose qui va de l'avant. Et c'est bien pour ça que la notion du manque a toujours été une notion névrotique. Et c'est le grand drame au fond de cette notion, c'est qu'elle s'est christianisée, après elle s'est platonisée, mais comme l'a montré Foucault, il y a une continuité parfaite entre le platonisme, le stoïcisme et puis le christianisme. Tout ce qu'on reproche au christianisme se trouve parfaitement présent dans le platonisme. Et à ce niveau-là, on a vraiment en fait une dénivellation. Et je pense à un passage d'Ovid où il dit « Les hermaphrodites, autrefois, on les considérait comme des prodiges divins, et aujourd'hui, on les considère comme des objets de plaisir. » Donc, c'est la différence entre le grec et le romain. Il y avait, dans le monde grec, un éros qui faisait qu'un hermaphrodite était un prodige absolument presque adoré, hein, des fois, en tout cas célébré, parce qu'il était, en fait, une manifestation du divin. Il ouvrait à l'homme peut-être la porte du mythe d'Aristophane, mais je ne veux pas insister là-dessus, mais enfin, une forme de réintégration. Tandis que chez les Romains, il est devenu un objet de plaisir. C'est-à-dire que, comme on le voit pour les travestis aujourd'hui, qui sont en fait un motif pornographique, on va trouver en fait des êtres de complétude qui sont des complétudes du plaisir et plus du tout des devenirs. Et ça met, me semble-t-il, dans votre exposé, un point en évidence, à savoir que vous avez parlé du genre, que c'est le genre qui est vraiment un appel, un prodige. Mais les pratiques sexuelles supposent pas forcément un tel devenir. Mais évidemment, elles n'iront pas en consultation. C'est dans le monde lisse, net, des échanges de plaisir, celui qui fait des hermaphrodites, non plus des plaisirs, mais non plus des prodiges, mais des objets de plaisir, il n'y a plus de place pour le devenir que vous mentionnez. Est-ce que je vous ai bien compris ?
La question que je me pose, c'est moi, est-ce que je vous ai bien compris ? Alors, sur la fin, vous m'avez perdu. Pour revenir au début, peut-être on reviendra à la fin. Vous m'avez, tout d'un coup, je me suis perdu. Je vous ai dit quoi au début déjà ? J'avais une réponse à vous donner. Ah oui, névrose, psychose.
C'est ça, le passé.
Ouais. Puis névrose, psychose, ouais. Deux façons de voir.
Non, je parle pas de psychose, là je parle vraiment. Quand il y a du passé, il y a de la névrose.
Si catégorique que ça. Je dirais que c'est peut-être que la limite entre les deux, aussi clairement posée, elle devient névrotique. C'est-à-dire qu'elle devient fermente. Et que ce qui est intéressant, mais qu'en même temps, pour pouvoir descendre dans la presque psychose, il faut être sacrément bien structuré. Et ça, même Deleuze et Guattari le disent et le redisent et le re-redisent. Trop de délire tue le délire. Si vous n'avez pas un minimum de structure, vous ne pouvez pas schizoïder. Vous allez rentrer là-dedans et vous n'en sortirez jamais. Et ce n'est pas la même chose, la créativité d'inspiration comme à la Guattari, schizoïde, machin. C'est joli de le dire, la schizoanalyse, mais c'est une créativité. En fait, il veut parler d'une créativité qui se lâche de certaines ornières.
Mais
on n'est clairement pas dans la psychose, parce que la psychose, c'est clairement autre chose. C'est clairement un enfermement. C'est plus du tout ça, la vraie psychose. C'est clairement plus un jeu. Pour jouer, il faut quand même avoir une colonne. Puis pour avoir une colonne, il faut avoir une certaine confiance dans la vie, dans les autres, minimalement, et dans soi, et dans nos perceptions. Enfin, c'est un tout. Pour la suite, après Aristophane, là, je suis plus sûre.
Non, ce que je disais, c'est qu'en fait, on a une dénivellation à un moment donné de l'hermaphrodite, qui est considéré comme un modèle prodige de la réintégration de l'humanité, une aventure à devenir. Et puis à un moment donné, non, il devient un objet de plaisir. Avec qui on peut faire des trucs marrants qu'on n'a pas fait avec les autres, avant de revenir aux autres pour revenir aux marrants.
Et si c'était ne pas opposer les deux ?
Alors, là je vous écoute.
Ah. Et si c'était pas opposé ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi les Grecs et les Romains, je ne connais pas des masses, autant vous dire. Par contre, aujourd'hui... C'est clair qu'aujourd'hui, le trans est une des figures de l'érotisme contemporain.
Ouais.
Clairement. Et puis d'ailleurs, c'est une grande souffrance pour les personnes trans. Qu'est-ce qu'ils disent ? Mais j'aimerais bien être reconnue autre chose que comme un objet de plaisir. Ça, c'est dit. Je l'ai entendu tellement de fois. Et c'est vrai. Les hommes les voient comme des objets.
Ouais.
Mais en même temps, cette attraction sexuelle... Elle a quelque chose d'une fascination, dans le sens que c'est pas si différent que votre divin. Elle a quelque chose d'une fascination, parce que c'est pas juste une question d'organes, de trous et de pénis, en plus ou en moins. C'est, je pense, cette fascination aussi de cette présence qui est si particulière.
Ben c'est un autre.
Et qui est si double.
Ouais, mais c'est un autre.
Parce qu'il est double. Hein.
C'est plus un autre que quelqu'un qui serait d'un genre banal, je dirais.
Ouais, c'est un autre autre.
C'est un autre autre.
C'est un autre autre. Mais ça tient d'une fascination que je mettrais de l'ordre du divin presque. dans le sens que c'est, ça amène à une élévation.
Merci de votre réponse.
De rien.
Oui, est-ce qu'il y a d'autres... Oui.
Oui, pardon.
Non, mais je donnais la parole là. Oui.
Ben justement, j'avais une interrogation par rapport... je m'intéresse beaucoup au travail du sexe et j'ai pu constater... Alors je ne connais pas la proportion de personnes trans dans la population, voilà, par exemple, vaudoise, mais je me rends compte, quand je regarde voilà, les annonces qui sont faites, qu'il y a énormément de personnes trans qui proposent leur service sexuel. Travailler dans le sexe, c'est déjà pas... j'imagine que c'est déjà toute une réflexion qui mène à travailler, à vendre ses charmes. Et je me dis que ça touche autant d'une population qui me semble restreinte. Voilà, ça m'interrogeait. Et aussi avec ce que vous disiez tout à l'heure, que la personne trans ne se considère pas comme trans, mais comme homme ou femme, alors que là, justement, ça joue avec le fait d'être...
Ça dépend, certains trans se considèrent trans.
D'accord, ok. Mais disons que voilà, j'ai ces interrogations, comment ça se fait que...
Il y en a beaucoup, beaucoup dans le travail du sexe, parce qu'il y a beaucoup de demandes.
Ouais, mais...
Non, mais il y en a proportionnellement. Nous, on avait fait une étude il y a 5-6 ans. Je sais plus, je crois qu'on avait 30% de travailleuses du sexe à Lausanne qui étaient trans. C'est quand même énorme.
Ben ouais.
Bon, Lausanne, Milan et Paris, c'est les capitales. Hein. Mm-hmm. C'est bien.
Genève, surtout.
En ce moment.
Regardez ce qui se passe en Thaïlande quand vous avez sur les toilettes transgenres dans les écoles pour jeunes de 14 à 18 ans. Parce qu'il y a un moment donné, certains jeunes hommes se disaient ben, je ne veux plus être dans les toilettes des garçons parce que j'ai envie de pouvoir me poudrer le visage. Et ils rentraient dans les toilettes des dames, et les toilettes des dames leur disaient non, vous ne pouvez pas venir ici. Et en conclusion de tout ça, on a construit des toilettes pour les trans. Et donc, ce que vous appelez une différenciation transgénique ou transsexuelle devient une norme. Et donc, dans notre société, c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de normaliser cette espèce de fantasme bilatéral d'une espèce d'unification des sexes. Et bon. Ça doit venir un genre, un troisième genre.
Je reste très, très, très prudente dans les comparaisons interculturelles. Parce que, bon, ça a pas mal été fait, hein, notamment dans Troisième Sexe, de Ernst et tout, qui a publié, voilà, ça existe dans toute chaque culture et tout. Mais en même temps, dans chaque culture, c'est une forme très différente et une représentation très différente. Même d'une culture finalement pas si lointaine que la nôtre, parce que la Thaïlande c'est quand même très loin, les Katoy c'est tout, culturellement c'est très loin, le Brésil qui est un peu moins loin par exemple culturellement, le travesti brésilien ça n'a rien à voir avec ni le transsexuel européen ni le travesti européen, c'est une toute autre manière de se penser. Il y a un excellent livre de Dan Kulik à lire, vraiment, qui se lit très bien, qui surprend. Et où il montre au fond que ce sont, par exemple, les gens qui travaillent dans le sexe, ce sont des gens qui ne sont pas opérés, hein, qui se sentent ni. Ils ne se sentent pas femmes.
Enfin, souvent, ils ont une poitrine quand même qui est là, avec un visage qui est quand même le plus féminin possible, aura le plus de clients. Donc, il y a quand même une forme de transformation qui est bien engagée.
Oui, oui, la transformation, elle est bien engagée, mais elle ne vise pas le même objectif ni la même compréhension de soi.
Je prends encore deux, trois questions. Il y avait mademoiselle là, puis au fond, donc mademoiselle.
Je voulais savoir, vous avez... Est-ce que vous avez pu remarquer
qu'il y a
une orientation, une préférence vers un genre particulier ?
Non, c'est très variable. C'est vraiment beaucoup plus variable et c'est intéressant parce que les travaux cliniques, c'est-à-dire faits par les psychologues et les psychiatres dans les hôpitaux, disent que les vrais transsexuels, par exemple, sont hétéros. Et puis, si les travaux sociologiques, ils disent exactement l'inverse. Donc, ça dépend qui c'est qui étudie. Mais en gros, c'est comme tout le monde. Ça se répartit bien. Ça suit une sorte de courbe de Gauss. Alors,
au fond...
Plus fort.
Comment est-ce que vous gérez avec le vocabulaire ? Et comment est-ce que vous discutez avec quelqu'un ou ici ? À dépasser cette question du « in-moi ». Ou alors, comment est-ce que vous arrivez à faire un concept quelque chose qui serait éprouvé, ou qui pourrait être éprouvé par les deux personnes. C'est...
Vous savez, c'est intéressant.
C'est quelque chose qui est difficile, les gens, pour se faire conscient. Et je pense à. C'est une ou deux fois, ça m'a frappé, je me suis dit, les gens que j'ai reçus, il y a eu le cas de. J'ai vu un. On parlait de théâtre avant. Moi, le théâtre, c'est quelque chose qui se passe très près de, des gens, et pas à distance. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, un espace que je peux faire, parce qu'elle me rapproche de son destin. Et je ne savais pas. J'étais moi-même un peu.
Tout ça. Je sais pas si je vais pouvoir. Ouais, je sais pas si je vais pouvoir vous répondre. Si c'est ça que vous voulez savoir. Mais par exemple, moi, ce que j'ai observé, c'est l'évolution de comment je vis le rapport au genre en 15 ans de travail sur cette question avec des gens comme ça. Qui remettent en question les normes constamment. Ben, au début, la première fois, moi, je ne m'étais jamais posé cette question-là pour moi. Hein. Je ne m'étais pas posé la question, en tout cas pas dans ces termes-là. Donc, c'était une question étrangère. La première fois, j'ai trouvé ça assez fascinant. Ça là. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis devenue insensible à cette question-là. Par exemple, en thérapie, moi j'ai des patients qui arrivent parfois en homme, parfois en femme, je remarque même pas. Mais je remarque plus. C'est un truc qui avant, je remarquais, mais maintenant, c'est plus un indicateur pour moi. Mais c'est devenu comme ça. Je me suis dit, tiens, je me suis insensibilisée à ça, ça me. Puis il me dit, ah, je suis venue la dernière fois en femme. Ah bon? Alors que je travaille aussi avec d'autres thérapeutes qui commencent, qui depuis moins longtemps, et puis où c'est un chemin, mais ça devient comme ça. Non, je ne sais plus, parce que moi-même, je suis devenue anormale. C'est comme par rapport à parler de sexe, je suis anormale. Habituée à parler, ça fait 20 ans que je parle de sexe toute la journée. La discussion de sexologue dans le train, là, tout le monde nous regarde, puis nous on se rend même pas compte, on est complètement hors norme. Parce que au début ça faisait bizarre, mon premier semestre d'études sur la sexualité, à lire des bouquins où ça parlait de sexe tout le temps, c'était chaud, hein.
On va juste prendre habitude. Une dernière question là, et puis de toute façon vous serez disponible au bar, j'imagine, donc vous pourrez poser vos questions à Denise après. Donc encore une mademoiselle.
Justement, je ne veux pas être approchée uniquement comme un objet de plaisir. Et puis, bon, ben, cette question d'objet qui touche tous les discours philosophiques, psychologiques, etc., sur la consommation, avec tous les mythes que ça prend avec le bonjour, etc. Et je vais tout mettre comme ça dans une soupe. Mais j'aimerais bien, enfin, si vous pouvez en dire un petit peu plus, parce que je trouve ça très intéressant, parce que pour moi c'est une réflexion qui est tout à fait légitime et qui va être motivée par un énorme œil sur soi qui est soi, retourné sur soi, et dans ce côté très narcissique qui est aussi normal du fait que lorsqu'on n'a plus de définition pour soi, on ne se retrouve plus, on n'a plus de place. À quel moment est-ce que c'est pas complètement biaisé en fait comme réflexion sur simplement je ne veux pas être un objet de plaisir, mais personne n'est jamais qu'un seul objet de plaisir.
Ouais, mais c'est quand même vraiment pas facile pour une femme trans, hétéro, de trouver un homme qui sache et qui l'aime pour autre chose que pour ça, réalistement parlant. Et moi, j'ai plusieurs patients qui ont renoncé à faire des transitions parce que, en résumé, ce que j'aimerais, c'est être aimée. J'aimerais être aimée comme femme, mais si je fais une transition, je ne serai jamais aimée comme femme. Donc, si je fais une transition, je ne serai pas mieux que maintenant, parce que ce qui compte le plus pour moi, c'est d'être aimée. Donc, je reste comme je suis. Et j'ai pas mal de patients qui ont arrivé à cette conclusion-là.
Okay, non, merci.
Mais c'est une conclusion très réaliste. Hein. Après, c'est très réaliste.
Merci, ben, je crois qu'on va passer, on va tous discuter ensemble à côté. Juste vous rappeler que le mois prochain, nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Luc Nancy pour une séance sur la jouissance. C'est le 22 avril, même lieu, même heure. Vous pouvez trouver le programme sur philo-vo.ch. En mai, nous aurons des prostituées de l'Aspasie, c'est juste, de Genève, qui viendront discuter sur comment elle perçoit le métier en fait de prostituée. Et en juin, nous serons à la librairie Humus à Lausanne avec deux performances et une présentation de Bethany Vernon qui a écrit le livre du boudoir et qui traite aux questions de, on va dire, l'ars erotica BDSM notamment. Et voilà, donc il y a d'autres super séances. N'hésitez pas à venir, à faire de la pub et puis ben santé et santé.
Vous avez pas quoi, alors?